Bonjour à tous. Je vous remercie de votre invitation. Donc effectivement, on va parler asthme et obésité et on va essayer de comprendre pourquoi ces deux maladies sont liées, parce qu'on sait qu'elles sont liées. Alors, j'ai mis mes conflits d'intérêts. Donc on va essayer de voir quels sont les liens entre les maladies. Est-ce que l'obésité peut aggraver l'asthme? Plus brièvement, on verra ensuite est-ce que l'asthme peut aggraver l'obésité. Et puis, on essaiera de terminer d'une manière pragmatique. Est-ce que c'est important, finalement, de s'occuper de l'obésité chez les asthmatiques? Est-ce que ça peut modifier notre prise en charge? Alors, est-ce que les deux maladies sont liées? Oui, vous le savez depuis longtemps, puisqu'il y a quand même une littérature qui est extrêmement abondante pour l'asthme et l'obésité. Et la première chose, c'est qu'on sait que ce sont deux maladies qui sont presque épidémiques dans les sociétés occidentalisées, on va dire, avec une incidence, une prévalence qui a augmenté considérablement au cours des 20 dernières années, et finalement des courbes qui sont assez parallèles en termes d'augmentation. On sait également, lorsque l'on regarde dans des populations de patients obèses, que la prévalence de l'asthme est assez élevée. Vous avez ici deux cohortes différentes d'asthmatiques, d'obèses, pardon, et vous voyez que lorsqu'on arrive dans les catégories d'asthme, d'obésité pardon, morbide, au-delà de 40 de BMI, vous avez une prévalence d'asthme qui est largement au-dessus de 30%. Vous avez le même type de courbe sur cette cohorte du Wisconsin. Et vous voyez, en revanche, ce qui est intéressant, c'est que cette augmentation de prévalence, elle est notamment très nette chez les femmes. Et ce lien entre asthme et obésité, qui prédomine chez les femmes, on va le retrouver dans toutes les études. On sait également que l'obésité est très fréquente chez les patients asthmatiques. Et vous voyez, dans cette cohorte, qui est une cohorte américaine, si on regarde les patients asthmatiques de stade 4, on a presque 60% d'obèses. Ça me paraît énorme. Je pense que c'est probablement lié au fait qu'on est aux États-Unis. Peut-être qu'en Europe, on aurait un petit peu moins. Au Liban, je ne sais pas. Mais 60% d'obèses chez des asthmatiques sévères, c'est tout à fait important. On a les mêmes données chez les enfants. On sait très bien, chez des petits-enfants, comme chez des adolescents, on a une augmentation de la prévalence de l'asthme chez les enfants qui sont en surpoids ou qui sont obèses. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces cohortes d'enfants, on a des données longitudinales qui notamment nous disent que c'est le fait de prendre du poids dans l'enfance et notamment le fait de grossir au cours des deux premières années qui va augmenter le risque de développer un asthme. Et ça donc, ça nous montre bien que ces deux maladies sont intimement liées sur le plan épidémiologique. Alors comment est-ce que ces deux maladies peuvent être liées? Eh bien, tout d'abord, on sait qu'il y a un fond génétique qui est commun, et notamment l'héritabilité. Donc l'héritabilité, c'est quoi? C'est la contribution relative aux éléments génétiques qui peuvent expliquer un phénotype particulier dans une population générale. Et donc cette héritabilité, elle est évaluée entre 40 et 70% et pour l'asthme et pour l'obésité. Donc il y a un trait génétique, qui n'est pas unique, hein, bien sûr, mais qui existe dans ces deux maladies. Et puis, quand on regarde dans les cohortes, les grosses cohortes où on a recherché des susceptibilités à une maladie, eh bien, on sait qu'il y a des gènes qui ont de susceptibilité et à l'asthme et à l'obésité qui ont été identifiés. Donc, j'ai pas fait une liste exhaustive, mais on sait, par exemple, qu'il y a des polymorphismes du récepteur bêta-adrénergique qui prédisposent à devenir asthmatique et qui prédisposent également à devenir obèse, le récepteur de la vitamine D, la leptine et puis d'autres protéines. Donc, il y a effectivement une susceptibilité génétique qui peut expliquer en partie cette association. Deuxième élément, il y a la physiologie. On vient d'en parler longuement, mais vous avez vu que l'obésité peut impacter fortement la fonction respiratoire. On n'a pas parlé d'hyperréactivité, mais on sait très bien que plus les patients sont gros, plus l'hyperréactivité bronchique augmente, avec, vous voyez, une belle relation linéaire entre l'augmentation du BMI et la chute de la PD20. À quoi est liée cette hyperréactivité bronchique? On n'est pas absolument certain du mécanisme, mais l'hypothèse actuellement qui est retenue et qui est admise en général, c'est que effectivement cette diminution des volumes pulmonaires qu'on vient de vous exposer très clairement va modifier le diamètre des bronches et va modifier en fait la structure du muscle lisse, les relations entre l'actine et la myosine, et va mettre les ponts actine-myosine dans une conformation, on va dire, un peu néfaste, un peu délétère, qui va favoriser cette hyperréactivité bronchique. Et donc, tous les obèses, et notamment les patients les plus obèses, c'est-à-dire ceux qui ont un BMI au-dessus de 35 ou au-dessus de 40, ont une hyperréactivité bronchique, on va dire, physiologique, ou en tout cas qui est liée à la diminution de leur volume pulmonaire. La preuve, dans cette cohorte qui est une cohorte française, je ne sais pas si vous voyez bien les chiffres, mais qui sont des patientes qui ont été évaluées à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, avant la chirurgie bariatrique, ce qui explique le BMI très élevé au-delà de 46%, qui ont eu un test à la métacoline de façon systématique. Et on observe dans cette cohorte que globalement, 48% des patientes ont une hyperréactivité bronchique. Dans ces hyperréactivités bronchiques, il y en a à peu près 20% qui ont un asthme authentifié, c'est-à-dire avec des symptômes et ou un traitement, et les autres n'ont pas d'asthme. Et donc, elles ont des tests à la métacoline qui sont positifs. Troisième élément, qu'est-ce qui peut lier l'asthme et l'obésité ? Bien, il y a des comorbidités qui sont communes, vous le savez. Le reflux gastro-œsophagien, favorisé par l'obésité, favorisé par l'asthme, qui s'aggrave mutuellement. Donc c'est probablement un élément commun aux deux pathologies qui peuvent participer à cette association. Le deuxième élément, c'est le syndrome d'apnée du sommeil, dont on sait qu'il est plus fréquent chez les obèses, qu'il est plus fréquent chez les asthmatiques sévères. On dit qu'à peu près 60% ont des syndromes d'apnée du sommeil, pas forcément sévères, mais ont des syndromes d'apnée du sommeil. Et on sait notamment que l'apnée du sommeil est associée à une augmentation de l'inflammation à neutrophiles dans les voies aériennes. Et c'est un autre élément qu'on considère comme pouvant influencer la survenue d'un asthme ou peut-être éventuellement aggraver un asthme. Donc, les comorbidités qui s'associent. Alors, une fois qu'on a vu ces éléments qui peuvent éventuellement expliquer l'association, c'est la chose importante, c'est est-ce que ces maladies peuvent impacter en termes de contrôle et en termes de symptomatologie ? Et notamment, est-ce qu'un asthmatique obèse est un asthmatique plus difficile ? Alors, on le pense depuis longtemps, il y a quand même une littérature assez abondante pour appuyer ce fait. On sait que globalement, les asthmatiques obèses sont moins bien contrôlés par la corticothérapie inhalée. On sait qu'ils ont plus souvent recours aux traitements de secours, qu'ils sont plus souvent hospitalisés lorsqu'ils font des exacerbations d'asthme, que les hospitalisations durent plus longtemps, qu'ils sont plus symptomatiques en termes de dyspnée, mais en revanche, ils se plaignent moins de tout. En revanche, en termes de fonction respiratoire, on ne voit pas de modification, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de troubles ventilatoires obstructifs plus sévères. Et puis, si on fait des tests biologiques plus complexes, on sait que les macrophages des obèses asthmatiques répondent moins bien à la corticothérapie. Donc, globalement, on considère effectivement que l'asthme de l'obèse, et je pense que ça correspond à votre pratique clinique, c'est souvent un asthme plus difficile à prendre en charge. Alors, attention, bien sûr, hein, tous les symptômes d'asthme, tous les symptômes respiratoires chez un obèse ne sont pas forcément de l'asthme, et il y a parfois des discussions de diagnostic différentiel qui peuvent être importantes. Alors, pour contredire exactement ce que je viens de vous dire, mais je ne pouvais pas ne pas vous présenter cette étude qui est sortie cette année, sur une cohorte d'adolescents asthmatiques obèses aux États-Unis, où on a comparé effectivement les obèses et les non-obèses, et vous voyez qu'en termes de consommation de soins, d'exacerbation, de séjour aux urgences ou de tests de contrôle, eh bien dans cette série-là, il n'y a pas de différence de contrôle. Alors pourquoi, je ne sais pas, pourquoi est-ce que ça contredit un peu la littérature, mais je pense que ça dépend un petit peu de la population à laquelle on s'intéresse. Mais néanmoins, effectivement, je pense qu'il faut quand même ne pas mettre tous les obèses asthmatiques dans le même sac. Et d'ailleurs, dans cette cohorte, qui est une cohorte américaine, où on a fait encore une étude de cluster, comme on en fait beaucoup chez les asthmatiques en ce moment, on a ici, sur des asthmatiques légers, distingué plusieurs phénotypes, et notamment dans ces phénotypes, donc qui sont sortis d'une manière statistique, on va dire, hein, par la technique des clusters, eh bien, on a deux phénotypes obèses, un contrôlé, et un qui est bien contrôlé. Et finalement, ces asthmatiques semblent assez différents sur le contrôle, mais également sur l'âge du début, avec les asthmes incontrôlés qui ont une maladie qui débute plus jeune. Ces patients sont un peu moins gros, ils ont une hyperréactivité bronchique un peu moins importante, et également un peu plus d'IgE. Donc, ça, en pratique, ça ne change pas grand-chose, mais ça veut quand même nous dire, et ça commence à dire que le phénotype asthme de l'obèse, qu'on a annoncé un peu comme une vérité vraie, finalement c'est peut-être pas si simple que ça, et que l'obésité joue sur le contrôle de l'asthme, mais que l'obésité ne fait pas tout. Et d'ailleurs, si on reprend la fameuse cohorte du SARP, je suis sûre que vous avez tous lu ce papier ou au moins vu présenté dans tous les congrès, qui était la première étude de cluster chez des asthmatiques, on avait parlé de ce cluster 3. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a dit le cluster 3, c'est des dames de 50 ans qui ont un asthme qui commence tardivement, elles ne sont pas atopiques, elles sont obèses, et tout le monde s'est dit, mais oui, bien sûr, on a tous dans nos consultations ces asthmes de la femme âgée obèse. En réalité, si vous regardez les autres clusters, et que vous regardez la prévalence de l'obésité dans les autres clusters, vous voyez 37%, 24%, 30%, donc 58% dans le cluster 3, 44%, 50%. Donc finalement, l'obésité, c'est quand même un élément qui est extrêmement fréquent chez les obèses, chez les asthmatiques, pardon, et qui, en tout cas, ne peut certainement pas définir à lui seul un seul phénotype, puisque vous avez vu que dans tous ces phénotypes-là, où il y a des jeunes, il y a des allergiques, des non-allergiques, ben finalement, la prévalence de l'obésité, elle est extrêmement élevée chez tout le monde. Alors, le troisième élément qui est important et qui génère beaucoup de publications actuellement, c'est est-ce que, finalement, c'est pas l'inflammation qui aggrave l'asthme chez l'obèse ? Et l'hypothèse initiale, c'était de se dire l'obésité, c'est une maladie inflammatoire, l'asthme aussi, et donc est-ce que finalement l'asthme de l'obèse, c'est pas une maladie très 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 inflammatoire? Vous savez, en effet, que chez les obèses, au niveau du tissu adipeux, notamment au niveau du tissu viscéral, il y a une infiltration macrophagique qui est importante, une sécrétion d'interleukine 6 de TNF, qui vont être responsables des maladies cardiovasculaires, du syndrome métabolique, et donc l'hypothèse, c'était est-ce qu'on pourrait rajouter ici, vont être responsables également de l'asthme. Alors, il y a eu beaucoup de recherches dans ce sens. Première étude qui décevait un petit peu les gens, c'était d'abord quand on a regardé le NO exhalé, qui est quand même un bon marqueur de l'inflammation dans les voies aériennes. Eh bien, en termes de NO, il y a peu de NO chez les asthmatiques. Donc, plus ils sont obèses, moins il y a de NO exhalé, donc ce qui semblerait dire que ce soit une maladie peu inflammatoire. En réalité, il y a eu des travaux depuis qu'on ne va certainement pas détailler parce que là, on sort totalement de mon champ de compétences, mais des travaux qui montrent que ce n'est pas lié à des problèmes d'éosinophilie bronchique, c'est surtout lié à des modifications profondes du métabolisme du NO chez les obèses qui vont conduire probablement à une augmentation du stress oxydant et qui peut être par ce biais-là augmenter l'inflammation bronchique, mais ce n'est pas le sujet. En tout cas, moins de NO chez les asthmatiques obèses. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on va regarder dans leurs expectorations induites ou dans leurs bronches ? Première étude, des Pays-Bas, des patients assez obèses avec des BMI à 44 vus avant chirurgie. Si on regarde leur expectoration induite, on est un peu surpris parce que finalement, il n'y a pas du tout de différence entre les obèses et les non-obèses. Donc l'hypothèse asthme de l'obèse, maladie inflammatoire, elle n'est pas tellement soutenue par ce travail-là. Si on regarde les biopsies bronchiques, dans ce travail-là également, c'est pas différent. Un autre travail, cette fois-ci anglais, les malades sont un peu moins gros. Pareil, dans l'expectoration induite, on regarde ici les éosinophiles, pas de différence entre les asthmatiques minces ou obèses, pas de différence dans le sang. Donc, effectivement, pas d'argument pour penser que ce soit une maladie très inflammatoire. En revanche, si on regarde les biopsies, on se rend compte qu'il y a une différence importante en termes d'infiltration dans la muqueuse bronchique, avec davantage d'éosinophiles, ce qui vous est... remarqué ici, chez les patients obèses et davantage d'IL-5. Donc comme si l'augmentation de l'inflammation finalement était compartimentalisée à la muqueuse bronchique et ne se retrouvait pas dans les compartiments qu'on évalue plus facilement, qui sont l'expectoration induite, le NO ou le sang. On retrouve la même chose ici dans ce travail finalement hollandais, avec une augmentation des éosinophiles dans les bronches, dans les biopsies bronchiques, pas de différence dans l'expectoration et pas de différence au niveau du sang. Donc, il y a effectivement plus d'inflammation au niveau des bronches. Alors, à quoi est-ce que c'est dû ? Pour l'instant, on n'en sait rien du tout. Il y a des hypothèses, qui sont encore que au stade de l'hypothèse, qui seraient de dire que chez l'obèse, ces cytokines, ces adiponectines, ou la leptine, vont induire peut-être une augmentation de la survie des éosinophiles au sein du tissu, une augmentation de l'adhésion, et le fait que ces éosinophiles soient trappés au niveau de la muqueuse bronchique va peut-être justement participer à l'augmentation du stress au niveau du tissu et participer à l'augmentation des symptômes. Mais ça reste à démontrer, mais en tout cas on a l'impression qu'il y a effectivement une inflammation mais qui est compartimentalisée au sein de la muqueuse bronchique. Alors tout ça c'était l'hypothèse asthme TH2, puisque vous avez vu on a parlé d'éosinophiles. Est-ce que il pourrait y avoir une autre voie de l'inflammation que la voie TH2 habituelle? C'est probable parce que dans cette série-là, qui est une série américaine, où on a regardé d'autres marqueurs de d'autres voies inflammatoires qui sont notamment la voie TH1, eh bien on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de marqueurs de l'inflammation de TH1 chez ces adolescents, du TNF, de l'interféron, que c'était associé au syndrome métabolique et c'était associé à l'aggravation de la fonction respiratoire. Mais donc, chez des adolescents asthmatiques, obèses, il y a une autre voie qui est activée, c'est la voie TH1. Et puis, chez la souris, Eh bien, on sait qu'il y a une troisième voie qui peut être activée et qui peut vraiment expliquer le développement de l'asthme chez ces souris-là, qui est la voie de l'IL-17. Alors, on va faire brièvement pour vous expliquer le schéma. Le tissu adipeux est donc infiltré de macrophages, ça vous le savez. Ces macrophages vont sécréter notamment de l'IL-1. Et l'IL-1 va être capable d'activer des cellules lymphoïdes qui sont très particulières, qu'on appelle les ILC3, lesquelles vont sécréter de l'IL-17. Et donc dans ce modèle-là, la sécrétion de l'IL-17 est capable d'induire un vrai modèle d'asthme, c'est-à-dire de l'hyperréactivité bronchique, du remodelage bronchique. Et quand on donne des anti-IL-17, des anticorps anti-IL-17, eh bien les souris guérissent de leur asthme. Et donc c'est très intéressant parce que c'est potentiellement une voie à explorer chez les asthmatiques obèses qui sont difficiles à prendre en charge. Si cette voie-là existe chez les asthmatiques obèses, eh bien, les anticorps anti-IL-17 sont un traitement tout naturellement trouvé. Encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse. Et puis, finalement, dans ce dernier travail, qui est un travail américain assez récent, où on a regardé finalement dans une population d'obèses asthmatiques lesquelles avaient un profil TH2 et lesquelles avaient un profil TH1, eh bien, on voit que c'est à peine la moitié des patients obèses asthmatiques qui ont un profil TH2. Donc, ce qui montre bien qu'effectivement, cette voie TH2 qu'on associe à l'asthme classiquement, elle existe chez certains obèses, mais pas chez tous. Et donc, manifestement, en fonction des profils d'obésité, il peut y avoir différentes voies inflammatoires qui sont activées de manière différentielle. Et c'est important de le savoir parce que le traitement, évidemment, peut être modulé en fonction de la voie inflammatoire qui est activée. Si les patients sont très TH2, ce sont bien sûr des candidats pour de la corticothérapie. S'il n'y a pas du tout d'inflammation de type TH2, pas d'éosinophilie, c'est clair qu'il ne faudra pas se battre pour leur donner une corticothérapie qui peut en plus aggraver leur obésité. En revanche, on sait également dans cette cohorte-là que le fait d'avoir une signature TH2 et d'être obèse, ça aggrave, ça donne des asthmes un petit peu plus sévères, comme si l'obésité et l'inflammation du type TH2 pouvaient avoir un effet additif sur les symptômes de l'asthme. Alors, deuxième question, est-ce que le fait d'être asthmatique peut aggraver l'obésité? En réalité, on n'a pas de données dans la littérature, ou très peu de données. On sait que le fait de prendre du poids, notamment chez les enfants, augmente le risque d'asthme. Je vous en ai parlé tout à l'heure dans les cohortes pédiatriques. Et augmente les symptômes d'asthme. Donc, ça peut bien sûr être délétère. Bien évidemment, c'est très difficile de parler de ça sans parler de la prise de corticoïdes oraux, qui est bien sûr un élément qui va favoriser la prise de poids et qui va être bien sûr un élément qui va interférer dans les études. On sait également que ces patients asthmatiques sévères, corticodépendants, ont parfois une activité ou même souvent une réduction de l'activité physique qui est importante et qui va bien sûr contribuer encore à la prise de poids. Et vous le savez parce que vous suivez ces malades-là, l'impact psychologique de la prise de poids, il est majeur chez ces malades-là et que c'est même très souvent un obstacle à la prise au traitement avec des patients qui refusent de prendre des corticoïdes oraux en disant « ça va me faire grossir, je ne veux pas les prendre ». Donc c'est un élément qui est mal évalué sur le plan de la littérature, mais vous le savez, dans la pratique clinique, c'est un élément qui est important. On a même étudié des groupes de patients dont on savait laquelle des deux maladies avait précédé l'autre. Et notamment, on sait que lorsque l'asthme a précédé l'obésité, c'est-à-dire des patients qui étaient asthmatiques avant de devenir obèses, ils sont finalement pas plus sévères que les patients pour qui l'obésité a précédé l'asthme. On sait qu'ils sont un peu moins gros et on sait qu'ils sont un peu moins dyspnéiques. Et donc finalement, le timing entre lequel les deux maladies arrivent est probablement important, avec probablement effectivement un impact sur les symptômes qui sont un peu différents suivant qu'on est devenu obèse avant d'être asthmatique ou l'inverse. Alors, c'est bien beau de parler de cytokines, hein, c'est bien beau de parler de voies inflammatoires, mais en pratique, est-ce que c'est important? En pratique, oui, c'est très important parce que on vous l'a montré tout à l'heure, le fait de perdre du poids, ça peut améliorer la fonction respiratoire, mais bien sûr, ça peut améliorer l'asthme. Je vous ai mis ici un seul exemple, qui est une étude randomisée où on a proposé à des asthmatiques obèses mal contrôlés de rentrer dans un programme où on leur proposait d'une part de l'activité physique et d'autre part un régime. En l'occurrence, c'était un régime hypocalorique grâce à des substituts de repas. Et ça a permis quand même, vous voyez, en moyenne, chez les patients mis sous régime, de perdre 7,5% de leur masse grasse. De leur poids total, pardon, alors que le fait juste faire de l'exercice, l'amaigrissement était beaucoup plus faible. Et lorsque on combine les deux systèmes, mais finalement, on obtient la même perte de poids. Donc c'est un régime qui a marché. Est-ce que ça a marché sur l'asthme? La réponse, c'est oui. Puisque si vous regardez en termes de qualité de vie, les patients qui ont été donc au régime augmentent leur qualité de vie de manière significative. Alors vous allez me dire que quand on maigrit, les gens vont mieux. Mais ce qui est important, c'est quand on regarde le score de contrôle de l'asthme, eh bien en moyenne, les gens perdent 0,6 points, ce qui est significatif sur le plan statistique, mais surtout significatif sur le plan clinique. Donc quand les gens maigrissent, eh bien on améliore le contrôle de l'asthme et vous voyez, la combinaison de régime plus exercice sont efficaces. Et ce qui est important, c'est de voir que si les patients perdent entre 5 et 10% de leur poids ou plus de 10%, eh bien, c'est à peu près la moitié des patients qui vont s'améliorer. Et c'est ce qu'on considère actuellement, c'est que de faire perdre à peu près 10% du poids à un obèse va pouvoir permettre d'améliorer le contrôle de son asthme. On sait qu'il y a d'autres études depuis qui ont été publiées, hein, alors avec des pertes de poids qui étaient favorisées soit par le régime, soit par l'exercice, soit par la chirurgie bariatrique de manière un peu plus stricte, et qu'on obtient les mêmes résultats dans toutes les études. Et on obtient des résultats d'autant plus importants que les patients sont sévères et avec un effet motivation qui est très important. Les patients maigrissent et donc sont plus stimulés pour prendre leur traitement. Donc ça améliore globalement toute la prise en charge. On sait également que si vous mettez dans votre programme d'amaigrissement, vous favorisez l'exercice physique, ça a un effet doublement bénéfique parce que l'exercice physique chez l'asthmatique va réduire l'inflammation des voies aériennes. Donc perdre du poids, c'est très important et ça peut, dans beaucoup de situations, améliorer les choses. Alors, si je résume, vous voyez bien que asthme et obésité sont deux maladies qui sont intimement liées, avec d'une part l'obésité qui peut influencer la ventilation, enfin la mécanique ventilatoire, l'inflammation et le NO, on en a parlé, et l'asthme, à l'inverse, qui peut augmenter l'obésité par le traitement corticoïde et par l'exercice. Et puis, il y a des éléments communs, les comorbidités, la génétique, l'environnement. On n'a pas parlé de vie intra-utéro, mais on a l'impression que tout ça, c'est quelque chose qui commence extrêmement précocement, et les hormones sexuelles, probablement. Donc, c'est deux maladies qui sont liées de manière complexe. Et donc, si je devais résumer ce qu'il faut retenir de cette présentation, vous l'avez compris, c'est que l'obésité aggrave les symptômes d'asthme. Mais attention, hein, tous les symptômes respiratoires chez un obèse ne sont pas liés à l'asthme. Et vous savez comme moi que l'apnée du sommeil, que les cardiopathies, etc. sont des éléments également à prendre en compte. L'objet de cette présentation, c'était de dire que le phénotype asthme de l'obèse, finalement, il n'existe pas. Et qu'il y a probablement plein de voies inflammatoires qui sont impliquées, et que maintenant décortiquer ces différentes voies inflammatoires va probablement permettre de cibler le traitement, mais en tout cas il y a un traitement qu'on peut appliquer à tous nos obèses, c'est la perte de poids, c'est l'exercice qu'il faut vraiment favoriser, et l'approche diététique chez nos patients, je pense, fait partie du traitement. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Oui, merci Camille. Donc en fait, la voix du T-helper, du non-T-helper 2, comment tu l'évalues en pratique courante? Il y a un sujet asthmatique, obèse, et qui n'a pas d'éosinophile dans les crachats, et le NO, tu as bien démontré qu'il n'est pas utile. Est-ce que c'est un diagnostic d'exclusion, ou bien tu as d'autres outils paracliniques que tu peux utiliser?
Pour la voix inflammatoire?
Oui, inflammatoire, non-TH2.
Dans la vie, dans la pratique quotidienne, l'éosinophilie sanguine, l'éosinophilie dans les crachats, le NO exhalé pour ceux qui l'ont, c'est une bonne manière d'évaluer la signature TH2. Et donc, si effectivement les malades n'ont pas d'éosinophilie ni dans les crachats ni dans le sang, c'est probablement la voie TH2 n'est probablement pas très activée à ce moment-là. Et effectivement, je pense qu'il faut chercher d'autres voies thérapeutiques. Effectivement, ce que je vous montrais sur la signature TH2, hein, c'est de la recherche, c'est du brossage bronchique, c'est pas des choses qu'on fait en routine, mais dans la vraie vie, l'expectoration et les éosinophiles dans le sang, ce sont des bons marqueurs qu'il faut utiliser.
Merci pour ce superbe exposé. J'étais très frappé par le chiffre de 40 à 70% pour la prédisposition génétique ou familiale. Est-ce que ça veut dire que pour nos collègues pédiatres, par exemple, il faut vraiment cibler les familles, enfin les enfants dont les parents ont un excès pondéral? Est-ce qu'il y a des stratégies qui sont mises en place pour ça?
Alors, des stratégies qui sont mises en place, je ne sais pas, mais en tout cas, une fois que l'enfant est né, il y a même des pédiatres qui disent que c'est trop tard, hein, parce qu'il y a même des travaux qui montrent que c'est le fait d'être obèse pendant la grossesse, voire même le fait de prendre plus de 4 kilos le premier mois, des chiffres comme ça, qui en fait déjà en soi augmente le risque d'asthme dans l'enfance. Comme si finalement tout ça pouvait se jouer extrêmement précocement et pouvait déjà réorienter l'immunité très précocement. Après, on sait aussi que effectivement les petits enfants qui grossissent pendant la deuxième année, c'est eux qui vont avoir le risque de devenir obèses. Donc effectivement, on aurait tout intérêt à cibler ces enfants-là et à faire en sorte qu'ils ne prennent pas du poids trop précocement. Après, c'est des stratégies politiques, je pense, globales de réduction de l'obésité. Mais effectivement, je pense que ça se joue très tôt.
Merci pour cette présentation. Est-ce que la perte de poids augmente la sensibilité des récepteurs bronchiques aux médicaments, d'où un mieux contrôle de l'asthme chez les malades obèses?
Alors, on sait juste que la perte de poids réduit l'hyperréactivité bronchique. Donc, il y a eu des tests à la méthacholine. En revanche, je n'ai pas vu d'études où on avait regardé la sensibilité au bêta 2 ou la modification du métabolisme des corticoïdes. Mais globalement, quand le contrôle de l'asthme s'améliore, ça veut dire que les malades utilisent moins de médicaments. Donc, après, quel est le mécanisme, je ne sais pas. Ça n'a pas été regardé précisément. Il y a moins d'inflammation aussi dans les bronches. Après la chirurgie bariatrique, on voit moins d'éosinophiles dans les crachats.